Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
On fait signe que notre invité déjà en ligne, il intervient depuis Mbandaka, Joseph Ingoldi, son ministre provincial de l'environnement. Mais ce ministre, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Je suis chez vous ici à l'antenne de Mbandaka.
Voilà, merci monsieur le ministre d'avoir fait les déplacements de sur place dans nos studios à Mbandaka pour aborder avec cette question sur comment prévenir les conflits fonciers en milieu rural, parce que c'est connu de bien des gens, les conflits fonciers sont légion en milieu rural, parce que dans bien des cas, il y a des personnes qui se disent des ayants droit d'une concession forestière mais qui n'ont aucun titre foncier et se posent souvent des problèmes lorsque ces personnes veulent y exercer des activités car elles sont à une forte opposition d'autres membres de la communauté. Donc avec vous, on va donc découvrir comment faire pour prévenir ces genres de conflits fonciers en milieu rural. Nous rappelons le numéro de contact. Si vous êtes intéressé par ces sujets et vous voulez appeler le numéro d'appel, c'est le 081-890-6394. Alors, dites-nous à Joseph Ingoldi Songo, vous êtes ministre provincial de l'Environnement à l'Équateur. Est-ce que, pour ce qui est par exemple de l'Équateur, vous êtes souvent au courant de ces genres de conflits fonciers en milieu rural?
Oui, parfois il y a des conflits dans ce sens-là, mais c'est question d'incompréhension et de manque d'information. Parce que les lois sont très claires et que parfois les communautés ruraux n'ont pas d'information ou leurs droits. Ils ne savent pas quels sont leurs droits et leurs devoirs. Ils ne savent pas. C'est pour cela qu'il y a toujours des incompréhensions. Et ils sont, d'un côté, accompagnés par les ONG internationaux tout comme nationaux et qui essayent de faire des appels de ce sens-là, mais ils dévient l'autorité locale pour restaurer ce problème. La loi est claire. C'est dit quoi? Si la partie forcière, c'est-à-dire de communautés, ils s'organisent en groupe, ils peuvent exploiter leur forêt seuls ou ils peuvent être accompagnés par une autre personne juridique ou bien physique. Alors, dans tout cela, ils doivent faire un contrat. S'ils veulent être accompagnés par une société ou une personne physique, ils doivent avoir un contrat. Et ces contrats doivent être contrôlés par l'autorité administrative locale. Et après, s'ils ont un seul contrat, ils vont présenter auprès du gouverneur de province. Le gouverneur de province, après avis du conseil consultatif, et c'est par là que le gouverneur de province peut octroyer un arrêté, c'est-à-dire un agrément, c'est-à-dire aux communautés locales, pas la société. Aux communautés en vue du contrat que les communautés ont fait avec la personne qui va exploiter leur forêt. Voilà, c'est la démarche à faire. Mais parfois, qu'est-ce qu'on veut? Oui. Il y a des gens qui passent là-bas sur place, ils parlent avec les communautés locales, ils s'arrangent entre eux, et puis il y a des incompréhensions pour exploiter directement avec l'exploitation illicite, c'est-à-dire les artisanaux, sans que le gouverneur ait octroyé l'agrément, sans que l'autorité administrative ait suivi ces problèmes-là. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Maintenant, nous sommes en train de s'organiser au niveau de la province, d'organiser le conseil consultatif de forêt, oui. De mettre en place les inspecteurs de forestiers, qui seront bientôt agrémentés 40 inspecteurs forestiers, et le conseil consultatif va accompagner cette démarche-là des contrats avec les communautés locales. Voilà.
Donc,
il n'y avait pas
Alors j'aimerais que les gens sachent, parce que ça c'est des conflits bien récurrents, en tout cas à travers tout le pays. Il y a, quand vous partez dans certains coins du pays, vous entendez des gens qui vous disent ça c'est notre concession, ça c'est notre héritage, c'est depuis nos ancêtres. Et puis après un moment il y a des conflits comme ça entre les communautés pour une même concession forestière, et alors que vous avez dit il y a la loi est déjà bien claire par rapport à cela, mais maintenant là, si par tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant et qui connaissent ces genres de problèmes, vous avez dit comment ça doit se passer. Alors comment faire pour les sensibiliser davantage de manière à ce qu'il n'y ait plus tout le temps ces genres de conflits?
Vous savez, d'abord nous devons savoir que la terre et sous sol, c'est les forêts, c'est l'autorité de l'État.
Oui.
D'abord. Ça, c'est très important. Et les communautés, c'est-à-dire des familles, des clans, ils ont leur forêt héritée par les ancêtres. Attention. Alors, l'État reconnaît ça et l'État leur octroie une garantie d'exploitation avec une superficie bien déterminée. Une garantie d'exploitation. Et cette garantie d'exploitation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils se veulent dans ce côté-là. Et il arrive parfois, parce que nous avons trois sortes de classifications de forêts. Forêts classifiées, des classiques, et les forêts de protégées, et les forêts de production permanente. Alors, les communautés se trouvent beaucoup dans les forêts protégées, c'est-à-dire leur part se trouve là-bas. Et l'État les reconnaît, que ce soit des clans, des chefs coutumiers, leurs forêts, ils ont leur part là-bas. Mais c'est un problème que nous avons connu, que nous sommes en train de résoudre cela pour mettre travailler ensemble avec les ONG internationaux pour clarifier cette situation, pour que cette incompréhension, moi je dis simplement l'incompréhension que les communautés locaux entre eux, c'est-à-dire entre les clans, qui se font, et aussi les exploitants illicites, c'est-à-dire les artisanaux qui viennent là-bas pour leur dire n'importe quoi en déviant la loi. Et alors, il faut qu'il y ait un organe de contrôle, de surveillance et de gestion qui doivent accompagner, assister les communautés locaux pour mettre clair dans cette affaire. Et les objets sont en train de travailler là.
Et vous avez parlé de la mise en place des inspecteurs forestiers. Quel sera le rôle de ces inspecteurs?
Le rôle des inspecteurs, c'est-à-dire ils sont là pour contrer les inspecteurs forestiers.
Oui.
Ils font les contrôles forestiers. Ils partent là-bas pour appliquer la loi d'abord. Qu'est-ce que la loi demande et qu'est-ce que la loi a prévu pour l'exploitation du forêt? Pour respecter les normes, pour respecter les règlements, et aussi pour brider les exploitants illicites. Voilà, c'est ça les inspecteurs forestiers. Et s'ils sont assermentés, ils travaillent comme un OPG, et ce sont des régulateurs, ils arrivent dans le problème d'exploitation de forêt aussi. Alors, ce sont des agents comme des OPG judiciaires qui sont capables d'arrêter ou de faire un constat, un PV de saisie des biens de celui qui exploite le forêt d'une façon illicite. Voilà, ce sont eux, et on n'avait pas, mais on avait dans le temps, il n'y avait qu'un seul OPG monté, mais à l'arrivée de notre du gouverneur de province Boulamba, il nous a instruit de former les inspecteurs forestiers. Maintenant, nous avons eu l'appui de Godelt, qui est à Kinshasa, qui est financé par l'Union européenne, qui a formé 40 OPG, c'est-à-dire les inspecteurs forestiers, pour faire face à cette situation. Et nous sommes très contents que bientôt, ces inspecteurs seront assermentés. Et alors, nous n'aurons plus ce problème des incompréhensions d'exploitation de nos forêts.
En temps poursuivre avec vous, monsieur le ministre, professeur de l'environnement équatorien, Joseph Ingoli Songo. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Maître Guilla Douga, qui appelle de Kinshasa, et Jean-Claude, qui est à Kindu. Bienvenue également à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est le magazine Okapi Service. Comment prévenir les conflits fonciers en milieu rural sur le sujet abordé avec notre invité, Joseph Ingoli Songo, ministre provincial de l'environnement équatorien. Si vous êtes intéressé par le sujet, le numéro d'appel est 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Maître Guilla Douga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, maître.
Bonjour, Radio Okapi.
On vous écoute.
Si j'ai voulu intervenir, c'est un sujet qui m'intéresse par rapport à la prévention des terres coutumières. Je voulais d'abord ici partir par le principe qui veut que la terre coutumière est liée à la population autochtone. Et par là, on peut étendre cela à ce que nous appelons avoir un droit emphytéotique sur, n'est-ce pas, cette terre coutumière, parce que, vous savez, dans des milieux coutumiers, les autochtones, ils ont leur cimetière dans leur milieu d'origine, ils vivent de la pêche, de la cueillette, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se détacher de leur sol. Et cependant, quand vous voulez peut-être vous approprier d'une portion de terre, à ce moment-là, on parlera du droit emphytéotique. Maintenant, le problème qui est là, c'est lequel par rapport à la protection. Très souvent, l'immixion de l'État dans ces secteurs-là essaie un peu de désorganiser, n'est-ce pas, le droit terrien, n'est-ce pas, des autochtones. Dans la mesure où, quand il y a des intérêts dans un milieu déterminé, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la forêt à l'Équateur, nous pouvons étendre cela, par exemple, dans d'autres milieux, par exemple, où il y a de mines, de diamants, de l'or, tout ça. Là, maintenant, c'est une incursion de l'État pour s'accaparer de ces terres-là afin de s'en approprier. Et à ce moment-là, ce sont des lois qu'on prend en désordre, contredisant même le principe de base, n'est-ce pas, de la terre coutumière. Ça, c'est un. Intervenant sur le deuxième aspect du problème, dans le cas spécifique de l'Équateur, la forêt doit être protégée par l'État, certes. Mais je tiens à relever que dans ces secteurs-là, nous avons un problème très sérieux par rapport à la protection de cette forêt. Parce que nous n'avons pas, non seulement, un nombre suffisant des inspecteurs qui doivent protéger la forêt, même ceux-là qui existent, peut-être très mal encadrés, est très mal formé. Parce que vous savez, l'évolution aujourd'hui, maintenant la guerre, dans les millénaires qui viennent maintenant, ça sera maintenant la guerre autour de la forêt, autour de l'eau. Je pense que nous devons faire toute une politique adaptée pour qu'on essaye de multiplier les inspecteurs en matière forestière. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec le phénomène climatique, nous devons être sérieux dans ce domaine plutôt que de faire une politique à peu près. Ce n'est pas un problème de la province de l'Équateur seulement. Il faut que ça puisse être un programme général de toute la République si nous voulons être sérieux. Voilà la petite contribution que je voulais donner à ce stade du débat. Merci.
Voilà, merci à Maître Guilla Douga depuis Kinshasa. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour Marcel Ngombombala et bonjour aussi à l'invité, son excellence, monsieur le ministre provincial à charge de l'environnement de l'Équateur.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, Marcel, moi aussi j'ai juste une petite contribution et sinon une petite observation. Vous nous parlez, la thématique a bien dit, c'est comment prévenir les conflits fonciers en matière forestière. Bien sûr, nous savons que le gouvernement a une grande part de responsabilité dans ce qui se passe, surtout dans nos forêts. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas une bonne collaboration entre le gouvernement, entre ceux qui nous dirigent et les acteurs de la société, et les organisations de la société civile. il n'y a pas une campagne de sensibilisation qui se fait en amont et qui doit se faire en amont, sinon en aval. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sinon dans le contexte actuel des choses, nous sommes en train de voir ce qui ne se faisait pas autant d'antan. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons, par exemple, moi je suis à Kindou, et je parle en termes de conséquences. Je suis en train de voir comment, au jour d'aujourd'hui, nos acteurs, surtout ceux-là qui ont des moyens, les députés, ils sont en train d'envahir nos forêts, les forêts qui sont au périphérique de la ville de Kindou ici, et sans tenir compte de cette population qui habite ou qui gère cette forêt. Maintenant, il y a ce conflit, c'est presque partout. Donc, il faudrait qu'il y ait une campagne de sensibilisation. Et le gouvernement doit appuyer les organisations de la société civile qui œuvrent en la matière pour pouvoir harmoniser les vies entre les populations autochtones et ceux-là, les concessionnaires qui descendent dans les forêts. Ça, c'est de un. J'ai entendu aussi le ministre parler des inspecteurs forestiers. Mais ici, on n'entend même pas parler de ces inspecteurs. Or, ces inspecteurs doivent être considérés comme les maillons diffusionnaires entre le pouvoir central ou entre nos dirigeants et ceux-là qui se trouvent au niveau des forêts, c'est-à-dire la communauté. C'était au moins juste ça, ma petite contribution. Sinon, bonne journée à Kindou.
Merci Jean-Claude. Bonne journée également à vous, à Kindou. Voilà, on revient à notre invité, Joseph Ingoli Songo, ministre provincial de l'Environnement Équateur. Vous avez suivi, monsieur le ministre, tour à tour, Maître Guylain Dougaï et Jean-Claude. Pour Maître Guylain, c'est vrai, et il a reconnu qu'il faut intensifier. Il a plutôt parlé des inspecteurs forestiers qui faudra vraiment former et puis les avoir un grand nombre. Mais il fallait également que l'État lui-même aussi puisse mettre de l'ordre dans ces secteurs de conflit, enfin dans ces secteurs fonciers en milieu rural. Et vous avez suivi également Jean-Claude. Lui, il a dit, bon, lui, il est acquis, nous l'a dit, il n'a jamais même entendu parler des inspecteurs forestiers dans le coin, mais il a également souhaité qu'on puisse intensifier les campagnes de sensibilisation. Monsieur le ministre.
Oui, merci beaucoup. Les deux auditeurs qui ont intervenu tout à l'heure sont presque la même chose. Je voulais répondre ici. Tout ce qui s'est passé, les difficultés que nous avons connues jusqu'à présent, c'est le manque d'application de lois de forêt. Nous avons des lois. L'État a tout prévu, même les codes verts. Tout est écrit. Le problème est qu'on n'a pas pu, ceux qui ont fait ça avant, ils n'ont pas pu appliquer ça. Nous, la politique, notre rôle est d'appliquer la loi, de faire appliquer la loi, de faire appliquer les décrets que tout ce que l'État avait déjà décrit. Et il s'arrive que ce problème d'exploitation de nos forêts et surtout les droits de nos autochtones et les communautés étaient bafoués parce que c'est par l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas pu lire les textes légaux. Et il n'y avait pas de sensibilisation. Nous, par exemple, ici à l'Équateur, maintenant, nous avons compris cela. Nous sommes il y a 6 mois dans les affaires. Sous le leadership du gouverneur Boulamba, il nous a demandé, maintenant, de faire appliquer, c'est-à-dire cette loi, d'organiser notre exploitation durable, la gestion durable de nos forêts. Et pour avoir une gestion durable de nos forêts, il faut appliquer des textes légaux. Alors, on commence par quoi? Par exemple, à l'Équateur, on n'avait pas, nous parlons du problème là des inspecteurs forestiers. Dans le temps des pré-Équateurs, il n'y avait qu'un seul inspecteur forestier. Avec tous ces milliers d'hectares de forêt, comment un inspecteur forestier peut ouvrir cette gestion? Vous voyez, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé. La première chose que nous avons fait, il nous faut maintenant avoir des inspecteurs forestiers. Nous avons demandé l'appui de Godel, c'est-à-dire le partenaire Godel, c'est lui qui a fait les codes verts et qui forme les inspecteurs forestiers, miniers et tous ces gens-là. On les a demandé de former nos inspecteurs. Et ils sont venus, ils ont fait des séminaires de formation sur place. On a eu 40 inspecteurs forestiers formés, diplômés. Maintenant, ils vont revenir parce qu'il faut avoir encore d'autres fonds pour faire la sermentation de ces inspecteurs pour qu'ils puissent avoir
la qualification d'un OPG qui peut juger, faire un procès verbal et pour envoyer les problèmes, les situations dont, au parquet ou bien on peut sanctionner la personne. Ça, c'est un pas très décisif que nous avons fait, que le Quater n'a jamais eu, qui est un seul. Et bon, je crois qu'avec 40, on va résoudre la situation mieux qu'avant. Et il faut encore d'autres. Parce que nous projetons encore former dans 2015-2017 plus de 400 pour couvrir toute notre superficie. Ça, c'est notre projet. Vous venez de prévenir. Et nous sommes en train de prévoir tout cela pour que notre gestion durable de nos forêts puisse être, dans ce sens-là, bien organisée. Ça, c'est un. Nous espérons résoudre nos problèmes dans ce sens. Parce que l'Équateur, son seul revenu, c'est la forêt. Les séries, par exemple, au Katanga, c'est le diamant et le cuivre et tout ça. Mais chez nous, à l'Équateur, c'est la forêt. Mais nous pouvons accepter que notre province, qui a sa richesse, la forêt qui soit mal gérée, pas exploitée. C'est ça qu'il faut recourir au texte de Go, recourir au mécanisme de cette gestion.
Non, monsieur le ministre, professeur, il faut reconnaître que c'est déjà un gros effort qui a été fait à passer d'un inspecteur forestier à 40 aujourd'hui qui ont été formés. Ça, c'est vraiment encourageant, c'est à féliciter. Mais donnez-nous le temps d'accorder la parole à deux autres auditeurs qui sont en ligne. Mavé, qui nous appelle de Kananga, et Deo Graciaski à Mbandaka. Mavé, bonjour. Bonjour Mavé, vous êtes en ligne? Mavé n'est plus en ligne, on va aller à Mbandaka pour retrouver Deo Gracias. Deo Gracias, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, bonjour, ça marche pour vous. Allez-y, Deo Gracias, quelle est votre question? On vous écoute, Deo Gracias, oui.
Une contribution et une petite question à la fin. Ma contribution, c'est d'abord encourager le gouvernement provincial par rapport à ses efforts, parce que nous savons que le secteur de la forêt, c'est un secteur important pour la vie nationale, mais surtout pour notre province. Comme vient de dire l'excellence, les Katanga, ils ont les cuivres, tout ça, mais nous, l'Équateur, nous avons la forêt. Il faudrait très bien gérer ce secteur pour avoir de l'argent au lieu d'attendre toujours la rétrocession des Kinshasa qui pose toujours problème. Bon, quant à la question, je vais demander un peu à l'excellence, c'est comment le gouvernement provincial, à travers son ministère, se prépare déjà au défi qu'il y a par rapport à l'exploitation, parce que nous savons que parmi les exploitants qui exploitent, si on peut permettre le terme, de façon irrégulière la forêt, il y a aussi les fiances politiques, les autorités politico-administratives et coutumières qui sont impliquées, même les judiciaires, pour ne pas dire armées même. Comment le gouvernement prépare déjà ces défis-là?
Merci Deo Gracias depuis Mbandaka. Monsieur le ministre Joseph Ingoli Songo, qu'est-ce que vous dites à Deo Gracias?
Oui, ce qu'il vient de dire, c'est vrai, mais nous connaissons ce problème. Et comme on a connu ce problème, on est en train de travailler là-dessus pour éviter cette lenteur ou ce problème de trafic d'influence et beaucoup de choses. Nous avons organisé maintenant, formé un conseil consultatif des provinces de forêts, des provinces de forêts. Ces conseils de consultatifs de forêts sont en rôle et de gérer et de donner des avis. Si toute exploitation, si les exploitations des forêts dans l'étendue de notre province, c'est-à-dire, ils doivent être là où on fait les contrats d'exploitation, ils vont voir ce que les autochtones et les communautés sont en train d'exploiter les forêts, et s'il y a une entreprise qui vient faire contrat avec eux, ils eux-mêmes observent, ils contrôlent. Et on tape le cahier de charges qui était fait là pour l'application du cahier de charges. Avant que le gouverneur puisse mettre sa signature, arrêter là-dessus et puis octroyer l'agrément. C'est-à-dire, tout cela, nous aurons plus ce problème. Nous avons connu ce problème, mais il y avait un manque de conseil consultatif qui était un organe reconnu dans la Constitution, c'est-à-dire dans le code vert, et qu'on n'a pas appliqué. Et je pense que dans d'autres provinces qui ont des forêts, ils ont un peu peut-être le même problème. Mais nous avons détecté le problème parce qu'il n'y avait pas de conseil consultatif. Nous travaillons là-dessus. Hein, vous voyez, nous sommes en 6 mois d'exercice. On est en train d'aller pas à pas dans tout pour mettre de l'ordre afin de mieux gérer d'une façon durable nos forêts. Alors, il y a aussi des partenaires qui nous accompagnent, par exemple, à Agilifor, le RNN, le WWF, et tout ça, DASH, ce sont des gens qui sont là, les ONG, qui se déplacent pour nous, qui travaillent avec nous, qui nous signalent à temps opportun, à temps réel, les difficultés qui sont sur place. Et à ce moment-là, le conseil consultatif peut aller directement, parce que nous travaillons en commission, il peut aller directement voir la situation. D'abord, protéger l'intérêt des autochtones, protéger l'intérêt des communautés locaux qui regroupent les clans. C'est ça, pour qu'eux aussi, ils se retrouvent. Parce qu'on ne peut pas exploiter des forêts sans que ces communautés, sans que les autochtones se retrouvent. On ne peut pas couper. Avant de couper, la loi dit qu'il faut que ces gens-là, on doit prévoir leur survie, leur moyen de les prendre en charge, comment ils vont vivre, comment ils vont se retrouver par rapport à cette chose. Créer des écoles, créer des hôpitaux, créer beaucoup d'activités professionnelles pour qu'ils puissent se retrouver. Et voilà, chez nous, à l'Équateur, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons commis le problème et on est en train de travailler.
Voilà, monsieur le ministre, avant d'accorder la parole à De Grèce, vous êtes en train de parler des inspecteurs forestiers qui ont été formés. Il y en a 40 et vous avez dit vos ambitions est d'en arriver même à 400. Mais j'imagine il faudra de moyens pour tout cela.
Bien sûr, il faut des moyens. C'est pour ça qu'on a commencé à 40, conformément à, disons, les moyens de bord qu'on a. Mais nous voyons que si nous gérons notre forêt avec les 40, notre but est quoi? D'augmenter le pouvoir d'achat, augmenter notre richesse. On est en train de faire notre richesse. Et le management, on est en train de faire le management dans le management des forêts. Et dès que cela va arriver, nous croyons, avec le dynamisme que nous avons mis en place, et je gère avec mon équipe, je crois qu'on arriverait en 2017, peut-être la fin, pour avoir encore 400 ou 100. Mais notre objectif est d'avoir 400. Et si nous avons 400, on aura vraiment couvert notre désir dans la gestion durable de nos forêts. Et que l'Équateur va bénéficier de ces forêts. Et il va se développer. Parce que la seule richesse que nous avons, c'est la forêt. Et il faut le bien gérer, bien encadrer, en respectant, comme j'ai toujours dit, les textes légaux et les lois d'exploitation de forêt.
Un autre auditeur en ligne, Clément Day, qui nous appelle de Kananga. Bonjour Clément.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour aussi à son excellence, monsieur le ministre.
On vous écoute Clément, quelle est votre question?
Vraiment, je voudrais juste demander à notre invité de la radio Capine. Il est vrai que dans le contrat de Dibaya, selon mes remarques, voilà que si vraiment vous êtes ma belle famille, voilà que votre fils est venu vraiment épouser ma fille. Alors comme vous n'avez pas l'endroit où vous pouvez habiter favorablement, je vous dis de venir habiter dans notre village. Du fait que vous êtes en train de consommer les noix de palmiers, voyez-vous qu'avec le temps, ces noix risqueront vraiment de germer. Alors comme les noix sont déjà germées et vous prétendez avoir déjà le palmier, vous vous confiez, soit vous vous donnez le courage de dire à votre famille, votre fils et votre fille que nous voilà, ça devient notre place. Et voyez-vous que conformément aux cartographies, parfois à certaines cartes qu'on peut évoquer, des gens paris risquent vraiment de nécessiter vraiment de conflits. Alors je voudrais juste demander à notre invité, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que nous puissions normalement tomber dans des conflits pareils, puisque c'est devenu vraiment une monnaie courante dans beaucoup de villages et surtout dans beaucoup de secteurs. Alors la deuxième question que je voudrais juste demander à notre invité, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que nous puissions vraiment arriver à réussir, puisque nous avions déjà perdu trop de forêts par rapport à certains conflits pareils. Donc voilà, la forêt nous appartient. Alors on passe par la destruction. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il n'y a pas de loi qui peut vraiment privilégier les forêts de peuples autochtones? Voilà ce que je voudrais juste demander à l'invité de la radio Capine. Merci de m'avoir accordé la parole.
Merci Clément Day depuis Kananga. Monsieur le ministre Joseph Ngoli Songo, qu'est-ce que vous dites à Clément?
Bon, merci beaucoup. Je n'ai pas tout saisi, mais je peux dire une seule chose. Que tous ces conflits, toutes ces incompréhensions étaient dues au manque de sensibilisation au niveau des communautés locaux et des autochtones. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, mais la loi a prévu cela. Les gens, c'était seulement ignorants. Quand nous avons pris les affaires, ce que je fais pour moi d'abord, de lire tous ces codes forestiers, de lire les codes de verts, et de voir qu'est-ce que les communautés et les autochtones peuvent avoir comme ressources en cas où nous exploitons nos forêts. Alors, les incompréhensions que vous êtes dans, qui l'a énuméré, il faut respecter les termes des communautés. C'est-à-dire, nous avons, dans la loi dit de respecter les terres des communautés locales. Ces terres doivent être respectées. Mais il faut aussi appliquer cette loi. Maintenant, il y a des foresteries communautaires.
Mais dites-nous, monsieur le ministre, par rapport à cette loi, ces communautés peuvent posséder des terres comme ça, sans titre foncier.
Non. Il y a ceci. Il y a les foresteries communautaires. Il y a une bonne foresterie communautaire est déjà produite. Nous, par exemple, aujourd'hui, avec notre partenaire WWF, ils ont regroupé des communautés, ils nous ont proposé un dossier de 36 projets de concession pour les concessions forestières pour les communautés locales, pour leurs exploitations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ces communautés locales s'organisent avec d'autres sociétés pour faire les projets de développement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons dit d'abord, avant que le gouverneur puisse valider ou agrémenter ces lois, il faut que la situation de conseil consultatif soit réglée et la conseil consultatif vont aller sur place. Quand ils sauront le quoi? De protéger cette communauté, de voir ce que les contrats qu'ils ont faits avec leurs partenaires et l'avis technique pour donner son avis technique. Si réellement les droits des communautés sont pris en compte pour leur développement, pour leur survie. C'est ça la démarche à faire. On a 36 dossiers qui attendent. Alors, bientôt, il y a une délégation. Je suis le gouverneur. Il a menti la seule sortie, l'arrêté de conseil consultatif que je lui ai proposé. Alors, les membres du conseil, parce que les membres du conseil consultatif, ici, des sociétés civiles, des fonctions publiques, même des autochtones eux-mêmes sont dans la conséquence pour protéger leurs droits. Là où on décide tout, là où on donne des avis, on les a pris. Tout est prévu dans la loi, dans la loi de forestier. Même les pygmées, ils sont dans les conseils consultatifs pour dire que il faut que eux aussi, là où on fait la décision, qu'on les écoute aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est ça chez nous, nous sommes en train de mettre ça en pied et sur place. Et ce problème-là que nous avons connu avant, on ne le trouvera pas. Parce que c'était comme une assemblée générale, une assemblée des lois de forêt qui regroupe toutes les couches de la vie forestière et des communautés pour résoudre ces problèmes. Et j'espère et je crois fermement que le problème que nous avons connu jusqu'à présent, on n'aura pas, on va l'éliminer, même pas à 100%, mais je crois qu'à 80%, on pourrait résoudre les problèmes.
Nous espérons ensemble avec vous, ça sera vraiment une solution pour prévenir tous ces conflits fonciers. Merci beaucoup Joseph Ingoli Songo. Vous êtes ministre provincial de l'Environnement, province de l'Équateur. Merci d'avoir en tout cas répondu à notre invitation pour parler de la prévention des conflits fonciers en milieu rural. Merci, on vous retrouve prochainement.
Merci beaucoup.
Thank you very much.